Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Et avec nos débriefeurs ce soir, je vous les présente tout de suite. Perle Bagot, bonsoir Perle.
Bonsoir.
Directrice générale de Hub Institute. À tes côtés, Alexandre Lebrun. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Co-fondateur et président de Nabla, assistant médical hein, que l'on connaît bien. On aura l'occasion peut-être de parler. Il y a un peu d'actu. On en dira un mot tout à l'heure. Et ancien chercheur IA chez Meta. Donc comme ça au moins, on aura quelques infos. Enfin, je ne suis pas à la source, mais en tout cas une analyse sérieuse de tout ça. Et puis analyse sérieuse aussi avec Hugo Borenstein. Bonsoir Hugo.
Salut.
Co-fondateur et président d'OMI, spécialiste dans la 3D, le métaverse. Je ne sais pas si tu as de l'actu aussi, on pourra en parler aussi ce soir. Alors messieurs, on va commencer avec Tesla, les résultats un peu catastrophiques de Tesla. Je disais, je cherche les chiffres, on va revenir dessus. Ils perdent... Oui, le bénéfice net en chute de 55% au premier trimestre. Alors ce que je vous propose, on va écouter un... ce qu'en dit Justine Vasseung, journaliste à la rédaction de BFM Business, et qui nous a fait un petit papier de préparation, et on va commenter tout ça. On l'écoute.
Le robotaxi est l'avenir de Tesla. C'est la conviction d'Elon Musk dans les cartons depuis des années. Les cybercabs, comme il les appelle encore, seront dévoilés le 8 août prochain. Leur production démarrera fin 2025. Les livraisons devraient-elles débuter l'année suivante? Elon Musk envisage même que les propriétaires de Tesla, 100% autonomes, les fassent fonctionner comme taxi quand ils ne les utilisent pas. Un pari que certains jugent risqué, car si certains robotaxis, ceux de l'américain Waymo par exemple, circulent déjà dans les rues de San Francisco ou de Los Angeles... D'autres s'y cassent les dents, c'est le cas de Cruise, filiale de General Motors, qui s'est vu bannir de Californie après un accident et qui a dû se séparer d'un quart de ses effectifs. Tesla n'est pas beaucoup plus heureux avec ses systèmes de conduite assistée. Le constructeur a dû récemment rappeler 2 millions de voitures car son autopilote était jugé défaillant. Selon le Washington Post, il aurait été responsable de 40 accidents mortels depuis 2016. Tout cela n'empêche pourtant pas Elon Musk de penser qu'à terme, ses robotaxis généreront plus de profit que ces voitures électriques.
Voilà, donc c'est assez paradoxal hein, ce qu'on a vécu hier soir avec les résultats de Tesla. Je disais un bénéfice net en chute de 55% au premier trimestre, 1,3 milliard de dollars quand même, et le chiffre d'affaires qui recule de 9% à 21 milliards de dollars. On a vu que il avait baissé les prix de ses voitures, le Cybertruck, on a l'impression que ça a un peu de mal. Il avait le modèle 2 et puis il a dit finalement on fera pas de modèle 2, mais on va faire un effort sur le modèle 3. Ça fait 5 ans quand même que Tesla n'a pas renouvelé un peu sa gamme de voitures. Je sais pas quel est votre premier regard dessus. Et puis, alors ça c'était ce qui va mal. Et ce qui va bien, c'est de l'autre côté. Il dit on va appuyer sur un modèle d'entrée de gamme. On va développer de l'IA. Et puis là, ben le cours est reparti comme en 40. Je sais pas Perle sur ce sujet là.
Bah, c'est vrai que Elon Musk de toute façon est le premier VRP de Tesla. Hein, donc dès qu'il prend la parole avec conviction et qu'il annonce et contrebalance un peu tous ses chiffres, on y croit forcément. C'est lui qui va chercher et qui porte la parole auprès des investisseurs. Après, c'est vrai que ça a été l'un des précurseurs sur la voiture électrique. Aujourd'hui, ils sont extrêmement challengés par les acteurs asiatiques, chinois, qui sont sur le devant de la scène, d'ailleurs, qui lui sont passés devant. Hein. Donc, il y a un enjeu à la fois de renouvellement des modèles et en même temps, bah, effectivement, comme il y a plusieurs acteurs, il faut revoir un peu les prix, il faut revoir la manière de produire. Comme ce qui était dans le reportage, il y a eu quand même un certain nombre de retours sur des problèmes techniques. Donc c'est pas évident. En même temps, voilà, lui il reste très convaincu de l'importance en fait de continuer d'être sur le coup d'après. Hein. C'est ce qu'il dit souvent d'ailleurs dans la manière de se positionner. C'est ok, là il y a ces problèmes actuellement, mais en fait moi je vois plus loin et moi j'investis sur plus loin et notamment la voiture
autonome. Les robotaxis,
voilà, exactement. Donc c'est toujours intéressant à suivre. Après effectivement il y a une période cruciale pour Tesla qui est challengée par des acteurs asiatiques et les ventes s'en font ressentir aussi bien que la rentabilité.
C'est pour ça qu'il insiste sur le robotaxi, sur l'IA. Il veut pas tomber dans le fait d'être un constructeur comme les autres finalement, avec un peu plus d'innovation. Mais voilà, maintenant que tout le monde commence à faire de l'électrique, bon, les Chinois à grande vitesse, les Européens aussi, les Américains, ça y est, s'y mettent. Il faut qu'ils trouvent le moyen d'être toujours au-dessus du lot. Hugo.
Ouais, écoute, je pense que Tesla sera jamais un constructeur automobile comme les autres de toute façon. Tu demandes à n'importe qui, n'importe quel kidam dans la rue, à quelle voiture électrique penses-tu, tout le monde va te répondre la Tesla. Et oui, maintenant, tu as tout le marché qui s'aligne et qui rattrape. Tout le monde a sorti ses gammes électriques. Il y a une offensive forte des marques asiatiques et chinoises, mais pas que. Le fait est que c'est Elon Musk qui a fait la voiture électrique qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors après, c'est le sport national de taper sur Musk. De toute façon, dès qu'il fait un truc, il faut casser du,
sucre sur la tête de Musk. Les chiffres d'affaires. Moins
oui, mais t'imagines
la partie Tesla.
T'as raison, c'est des pertes hyper importantes. T'as dit 1,3 milliard de pertes sur un trimestre. Donc évidemment, c'est monumental, mais il faut aussi voir la performance qu'il a apportée.
Non, c'est son bénéfice net qui chute.
C'est son bénéfice net qui a chuté.
Son bénéfice net n'est que de 1,3 milliard. Il a chuté de 55%.
Mais faut remettre en regard la performance qu'il a apportée depuis 10 ans et qui a fait de Musk la première fortune mondiale. Donc c'est quand même, je pense, à contraster avec l'historique de Tesla.
Tesla fait moins rêver, Alexandre?
Non, enfin, je pense que effectivement, c'est un ovni, hein, Musk et Tesla. Il a une grosse pression. L'action a perdu 42% cette année. Mm-hmm. C'est pas la première fois qu'on dit Tesla va très mal, etc. Je me souviens quand ils sont sortis le Model 3, la production n'arrive pas à décoller. Tout le monde disait Tesla est mort, Musk est mort. Et en fait, ça a très bien marché. Donc c'est pas la première fois qu'on voit ça. Moi, je pense qu'il faut. C'est très dur de prédire ce que va faire Musk. Tous les gens qui ont essayé ont échoué. Et voilà, il faut voir. Après le coup, après, de parler d'IA, quand on est en difficulté, d'annoncer des nouveaux produits par l'IA.
La robotaxi, il a même cité un moment son robot Optimus. Il a dit il sera prêt en 2025. Donc voilà.
Ça, c'est un coup classique que tous les groupes font. Je suis en difficulté et je vous parle des futurs produits et d'IA pour saupoudrer un peu les choses. Voilà, il a une grosse pression aussi pour embaucher un CEO pour Tesla.
Oui.
Parce qu'il passe beaucoup de temps sur X, sur de nouveaux projets d'IA, sur SpaceX, etc.
Ouais, sur Neuralink.
Sur Neuralink, etc. Et alors, c'est une surenchère. Il a un peu, il dit si vous me laissez pas 25% les droits de vote de Tesla, je passerai encore plus de temps sur l'IA et moins sur Tesla. Donc c'est un peu fou, mais c'est voilà, c'est un feuilleton.
Je regardais le cours de l'action, c'est quand même moins 41% depuis le début de l'année. Hein, donc voilà, quand on est actionnaire Tesla, on regarde ça un peu d'un peu plus près.
En attendant, il y a des Tesla à tous les coins de rue en Occident, tu vois. Il a quand même pris tout le marché, il a forcé le marché historique à se repositionner sur la voiture électrique. Donc quand tu regardes la performance sur 10 ans, les 10 ans de Tesla,
mais il baisse quand même les prix. Moi je pense qu'il y a quand même un problème d'image. Est-ce que Tesla peut un peu faire moins rêver? Est-ce que casser les prix, ça fait un peu douter aussi peut-être les experts du marché, enfin voilà, qui s'interrogent sur voilà, quand on baisse de 2 000, 3 000 $?
Écoute, moi je suis d'accord avec Alexandre, je prendrai pas cette position parce que tous les 6 mois tu peux enterrer Musk et 3 semaines après c'est le Phoenix, il revient. Donc je joue pas contre Elon Musk, moi.
et cette histoire de robotaxi?
Ouais, ça je sais pas, il y a un marché pour ça, il y a de la législation, j'en sais rien.
Alexandre.
Si, il y a un marché. Waymo opère dans 3 villes aux US, San Francisco, Austin, ailleurs. Il y a un marché.
Parce que lui, il dit carrément, c'est ce que disait Justine Vassogne dans le reportage, c'est que ce qu'il espère, c'est qu'un jour, voilà, si on est propriétaire d'une Tesla, quand elle ne sert pas, eh bien, on la laisse devant son trottoir, en fait, et puis hop, elle va devant son domicile, puis hop, elle va aller.
C'est ça qui est intéressant. Après, est-ce que ça se fera ou pas, mais c'est pas juste l'idée de la voiture autonome, c'est le service, en fait, c'est le fait de sortir à travers un nouveau modèle économique qui est, ok, quand tu n'utilises pas ta voiture, qu'est-ce que tu en fais? Et donc, comment, via une plateforme, c'est la même mécanique qu'un Uber, en fait, sauf que tu n'as pas de chauffeur. Et c'est ça qui, je trouve, est plus intéressant que la voiture autonome en soi, regardée et dans les annonces qu'il peut faire.
Ouais, parce que l'histoire du robot taxi, ça a toujours été, et même ce service de la voiture vue comme un usage, ça a toujours été son modèle dès le départ. Hein. Enfin, il n'a jamais.
Et je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est l'après-demain. Tu vois, c'est pas dans les 24 prochains mois.
Déjà dans son ADN, savoir que la nuit ou quand tu n'utilises pas, tu es en vacances, ta voiture elle est en train de tourner.
Et t'as un mec que tu connais pas qui est dedans, c'est quand même, faut y aller. Hein. À l'inverse, peut-être qu'Uber le fera. Je sais pas. Je pense que ça, c'est très prospectif. Là, le sujet, c'est de sortir les nouveaux modèles et de continuer à les vendre partout sur la planète. Et puis, il y a quand même eu beaucoup de sujets sur les frais de réparation chez Tesla. Et là, j'ai vu qu'il avait tweeté que c'était pas si cher, mais en fait, je crois que le vrai problème, c'est que quand on a une et qu'elle tombe en rade, c'est très, 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 très compliqué, quoi. Donc, je pense qu'il y a des sujets plus opérationnel, plus concret de constructeur automobile classique avant de se lancer sur le chauffeur automobile.
Et puis, est-ce qu'il lui manque pas? Alors, là, il l'annonce. Il dit on a un projet de citadine abordable parce que là, c'est un peu ce qui manque un peu dans cette gamme-là. Quand on voit Volkswagen, ils ont la Golf. Peugeot a la 208, la 2008, enfin des modèles. Renault va avoir ça en véhicule électrique, sa R5, quand même si les prix sont un petit peu plus élevés. Mais c'est ce qui manque un petit peu, je sais pas, non, dans ces gammes-là, Alexandre.
Oui, c'est vrai, quand on voit les grandes villes, etc., il manque cette petite citadine. J'étais au Japon récemment, et en fait, toutes les voitures sont toutes petites.
Oui.
Et ça choque quand on arrive surtout des US où toutes les voitures sont démesurées.
Très grosse, c'est les gros SUV. Ouais.
Intéressant, ouais, de voir pourquoi ils ne sortent pas ça.
Perle sur ce marché-là.
Bah effectivement, enfin pareil, je pense que ils s'alignent aussi au même niveau que les autres constructeurs automobiles en termes de produits, où il faut qu'ils puissent s'adresser plus globalement la totalité du marché ou presque en tout cas. Et une petite citadine, c'est aussi voilà moins cher, une accessibilité plus évidente.
Ouais, et puis oui, il pourra peut-être avoir de la marge s'il se sert sur cette partie logicielle. Bon, voilà pour Tesla.
Et puis t'as quand même toute la data qu'elle a captée, la Tesla. Ouais. Parce que le business model derrière, c'est que je crois que c'est la voiture qui a le plus de caméras au monde, la Tesla. Oui. Donc elle a juste scanné toutes les villes où elle opère et derrière, il a acquis une data juste phénoménale. Donc c'est quand même un dataset de valeur qu'il a constitué.
Mais de toute façon, c'est ça qui est étonnant. Enfin, si tu dis, il renaît un peu comme le phénix, hein, il renaît de ses cendres, c'est que on a quand même des résultats. Enfin, on annonce qu'une boîte, son bénéfice net chute de 55%, le chiffre d'affaires en recul de 10% sur un marché qui devrait pourtant être en croissance. Bon, même si le véhicule électrique ça tasse un petit peu. Et puis non, le cours de bourse, là, il part en flèche. Alors, c'est moins 41% depuis le début de l'année, mais quand même, il flambe un peu. Autre sujet, tiens, on va parler de TikTok. On parlera de Meta après la pause du journal de l'Écho. TikTok, alors ça y est, il y a le Sénat américain, donc le Congrès qui vient de valider la menace, hein, vous savez, de fermer TikTok. Alors, le réseau social va devoir couper les ponts avec Pékin, faute de quoi il sera interdit aux États-Unis. Le texte sera promulgué dans la nuit par le président Biden. On écoute ce que l'on dit Antoine Heller, c'est notre correspondant à Washington.
Ce texte, en fait, est un ultimatum. TikTok a 12 mois maximum pour couper les ponts avec sa maison mère, Biden, c'est plus généralement avec la Chine. En clair, TikTok va devoir vendre ses activités aux États-Unis, faute de quoi la plateforme sera interdite, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus disponible sur les magasins d'applications, le Play Store ou l'Apple Store. On ne pourra donc plus la télécharger aux États-Unis. Alors, on n'en est pas encore là. TikTok va contester le texte devant les tribunaux, c'est une certitude. Son argument, c'est de dire que cette loi bafoue la liberté d'expression. Un droit fondamental aux États-Unis, c'est le premier amendement de la Constitution. Il pourrait donc y avoir une longue bataille judiciaire. L'autre option de TikTok, c'est d'attendre les élections en novembre pour voir si le vent tourne. On sait par exemple que Donald Trump se dit opposé à l'interdiction de la plateforme. Et puis il y a toujours la carte de l'opinion publique. TikTok, c'est 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis, potentiellement 170 millions de mécontents si le réseau social disparaît. Reste que cet argument n'a pas fait trembler les élus américains. Le texte tout à l'heure a été largement voté au Sénat, à la fois par les démocrates et les républicains.
Et puis il y a la carte un peu business aussi, parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises. Alors, les grands, ça les inquiète moyennement parce qu'ils sont présents un peu partout, mais on imagine plein de petites entreprises, d'influenceurs qui sont sur TikTok, qui font un gros chiffre d'affaires sur TikTok et qui, si ça ferme, ça leur coupe un peu. Et puis alors, faut quand même attendre un an avant que ça ferme, hein, Hugo.
Un an, six mois, et puis de toute façon, c'est un serpent de mer parce que sous l'administration Trump, alors maintenant
Maintenant, il y a plusieurs choses.
Maintenant, il a changé d'avis.
Trump qui nous dit finalement, alors qu'il voulait le revendre, et puis.
Et à l'époque, il voulait couper en deux.
Et les Chinois qui se plaignent de la liberté d'expression, mais voilà.
À l'époque, il voulait le couper en deux. C'est quand même un peu curieux. Enfin, après, c'est quoi ta question? C'est est-ce qu'on est pour ou contre l'interdiction? Parce que moi, je suis pour à 100%. C'est quand même l'app qui rend toute la jeune génération débile, hein. C'est-à-dire que c'est une catastrophe, TikTok. Tu te balades dans la rue, t'as des mecs en train de se filmer, en train de faire des langues de chat, en train de... J'ai cité un autre exemple un peu triste en France, mais t'as des trucs catastrophiques qui se passent sur
TikTok. Et là, tu ne parles que des choses voilà, un peu bêtes, mais il y a tout ce qui peut être influence aussi. Hein. On va diffuser des vidéos.
Et tout à fait, d'ailleurs, c'est un outil.
Non,
et puis même, c'est un outil de propagande chinoise dans de nombreux cas. Donc, moi, je ne considère pas que ce soit un réseau neutre. Je pense que c'est un réseau éditorial, donc à un angle. Et je suis, pour une fois, plutôt contre qu'on l'interdise.
Et est-ce qu'on est, Alexandre Perle, est-ce qu'on est dans un. Parce qu'il y a le combat TikTok, puis il y a le combat sino-américain quand même. Hein. Les deux s'emboîtent un peu, Alexandre.
Déjà, je dirais, oui, Trump, en 2020, a essayé de le fermer. TikTok a gagné en justice. Et là, rien ne dit que TikTok ne va pas...
Il était allé voir Microsoft, Oracle, en disant, ce serait bien que vous le rachetiez. Enfin,
oui, mais en parallèle, ils ont contesté l'executive order et ils ont gagné. Et là, ils vont opter pour la même défense. Et donc, ça va durer longtemps et c'est pas fait, quoi. C'était OK, c'est voté par le Sénat, mais c'est loin d'être fait. Donc, je pense, première chose, c'est pas encore gagné. En plus, après, qui va vouloir acheter TikTok s'ils doivent le faire? Je pense que c'est pas évident qu'il y ait un acheteur. Il faut pas oublier, ils perdent beaucoup d'argent, d'accord, oui. TikTok. Il y a un business model qui est pas évident parce que faire de la pub dans des vidéos short, il y a pas de modèle qui marche encore aujourd'hui, contrairement au modèle de vidéos plus longues sur YouTube, par exemple. Et si c'était racheté, on voit ce qui s'est passé, par exemple avec MySpace qui a été racheté par News Corp. À l'époque, ça a détruit MySpace en quelques mois. C'est compliqué, quoi. Ça,
oui, puis eux, je sais pas comment sont faites les infrastructures techniques. Ça a été un peu complexe, hein, aussi. On coupe pas du jour au lendemain.
Ça a déjà été
interdit. Ça a été interdit en Inde, ça a été interdit au Pakistan. Enfin, TikTok a déjà été interdit en Inde, au Pakistan aussi. Il y a quelques pays où il a été banni. Mais Perle, toi, ton regard.
C'est surtout, je pense quand même avant tout, un enjeu politique, pour rebondir sur ta remarque. Effectivement, entre les États-Unis et la Chine qui se battent à plusieurs niveaux, et TikTok est un peu l'emblème technologique, média de ce combat. Après, tu disais, Hugo, que c'est effectivement un outil de propagande chinois. Bon, on peut dire aussi la même chose des plateformes américaines. Oui. Enfin, je veux dire, c'est de bonne guerre, tout ça. Enfin, ça vaut pour l'un comme pour l'autre. Alors certes, à certains niveaux, mais globalement, ça reste quand même assez similaire. Après, sur le sujet de est-ce que ça va vraiment arriver ou pas, on observe quand même qu'il y a un enjeu pour les plateformes chinoises qui veulent s'exporter et se développer de s'écarter le plus possible du gouvernement chinois, du parti politique, parce que en fait l'expansion à un moment est bloquée par des enjeux politiques.
TikTok, c'est le premier qui avait réussi ça, puisque bon, Alibaba sur la partie e-commerce, mais bon, ça n'a pas concurrencé des Amazon, les réseaux Baidu, les réseaux WeChat qui est quand même toujours largement utilisé en Chine.
Ça c'est des réseaux qui sont beaucoup pour le territoire chinois, voilà. Finalement.
Ils n'ont jamais réussi à exporter le modèle et tout ça, et que TikTok qui a réussi à fonctionner sur l'autre côté. Est-ce que quelque part, alors je reviens sur cette question-là, on se trompe pas un peu de bataille pour les Américains, parce que on sent quand même que derrière il y a des enjeux géopolitiques, parce qu'à peine l'administration américaine, là, il y a deux jours, a dit on est en train d'étudier le cas. Bon, là, ça y est, ils vont voter la fermeture. De l'autre côté, les Chinois disent tiens, WhatsApp et Thread, vous l'enlevez. Ils ont demandé à Apple de l'enlever carrément de l'App Store. Bon, d'histoire de censure, etc. Et Apple s'est tout de suite exécuté. Donc là, il y a aussi cet enjeu-là, non là...
Et WhatsApp et Thread étaient bloqués depuis longtemps, non?
Je crois.
En Chine, je pense que c'était...
Ouais, ils continuent à être accessibles via l'App Store, VPN, App Store, tout ça. Et là, ils ont demandé à Apple de...
Mais dans la pratique, en tout cas, c'est tous ces réseaux. LinkedIn est bloqué, Facebook est bloqué, Instagram est bloqué en Chine depuis longtemps. Donc, en fait, c'est... et d'ailleurs, beaucoup... Tu disais les produits chinois s'exportent mal, mais en fait, beaucoup des produits chinois sont en fait des clones de choses qu'ils ont bloquées. Donc ça va pas se réexporter. Donc il y a un clone pour YouTube, il y a un clone pour Facebook. On pourrait dire juste WeChat qui a évolué sur des choses très particulières au marché chinois. Mais
après j'attends de voir aussi. Alors dans le reportage, Antoine Nelard parlait de la réaction du public américain. Est-ce que le public... Je regardais, il y avait des chiffres. C'est une étude IFOP, hein, c'est chez nous. Les jeunes sur TikTok, 35%. Alors ils ont regardé les tendances un peu. 35% des jeunes sur TikTok pensent que les vaccins sont mauvais. 36% pensent que les élections peuvent être truquées. Enfin voilà, on voit quand même que...
Non, mais quand tu penses qu'aujourd'hui TikTok c'est quand même la principale source d'information. Je ne sais plus quel tranche d'âge, mais...
Plus fort que des moteurs de recherche.
Ouais, voilà. Donc c'est évident que, en fait, nous, on est old school, quoi. On va sur Google quand on cherche une info. Maintenant, peut-être ChatGPT, mais... en fait, non, effectivement, il y a toute une génération qui va sur TikTok pour chercher n'importe quelle information et pour suivre l'actualité. Donc oui, c'est sûr que ça a un impact. Et puis il y a tout un écosystème qui s'est développé autour de TikTok qui, globalement, dans son modèle économique et dans sa diversification, devient quasiment un site e-commerce. Enfin, je veux dire, ça va bien au-delà juste de diffuser des vidéos. Donc oui, il y a clairement tout un écosystème qui s'est développé.
Ce que font pas les autres apps, hein, moi, je trouve. Hein. Ce que tu disais, côté américain, côté chinois, c'est quand même vachement agressif. Et concernant TikTok, tu as un double effet malicieux, un double effet qui se coule. C'est un, t'as quand même, moi je trouve, des contenus qui sont abrutissants, c'est-à-dire que ce qui est diffusé dessus, c'est pas YouTube, donc tu peux pas trouver un contenu long, travaillé, intelligent qui va t'apprendre quelque chose ou sur Meta. C'est vraiment un tout venant de conneries. Et tu as toute la data qui est aspirée, parce que on parle du Sénat américain, mais il y a quelques mois, t'as le Sénat français qui s'est alarmé.
Ah oui.
Alors dans le plus grand
qui a interdit d'ailleurs assez,
dans le plus grand des silences, hein, c'est pas le même porté que le Sénat américain, et un peu en retard, mais t'as quand même cet enjeu de où va la data, où est stockée la data, qu'est-ce qui se passe de tes données, de tes données personnelles quand tu utilises TikTok. Donc t'as ces deux pendant. Un, c'est abrutissant, et puis deux, ça envoie de la data, on sait pas où, des données personnelles, on sait pas où. Donc moi je comprends la position défensive des Américains.
Surtout que l'on dit que le TikTok chinois là, il s'appelle Douyu, non, en Chine. Enfin là, il parle pas le nom de TikTok en Chine, mais c'est pas les mêmes types de contenus.
Et c'est ce que j'allais dire.
C'est des contenus plus éducatifs.
Mangent pas la même cuisine que nous. C'est-à-dire qu'ils nous servent ce truc infâme.
Douyin, voilà.
Et eux, ils ont une app qui ressemble en fait plus. C'est plus les reels, tu vois, c'est plus un snap, quoi. Dans, c'est pas forcément non plus glorieux, mais c'est pas en tout cas cette espèce de tout venant de contenu abrutissant.
Après, est-ce que ça renforce pas TikTok? Enfin, est-ce que quelque part le fait d'être un peu banni des États-Unis vont pas aller se renforcer ailleurs? On sait qu'en Europe, je crois qu'ils ont un taux de pénétration qui est encore assez faible par rapport à d'autres, aux États-Unis en tout cas, mais par rapport même à d'autres continents. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de.
Ouais, après, s'ils se font faire.
Il y a l'Afrique.
C'est-à-dire que l'Inde aussi, c'est quand même des grands des marchés stratégiques pour les apps sociales. Donc c'est forcément compliqué, c'est des gros marchés. Et après, tu parlais de l'action des jeunes.
Ouais.
Moi, j'ai vu des TikTok qui buzzaient sur Twitter de jeunes américains qui étaient en pleurs, qui avaient l'impression qu'après ça, on allait leur enlever leur manche-pain, qu'ils avaient plus hors de vie, plus de sens, etc. Ça a quand même baissé le niveau intellectuel de toute une génération pour moi.
Ouais. Je sais pas sur les.
Ouais, et à côté de ça, je lisais un article l'autre jour sur je sais plus, j'arrive pas à retrouver le nom du hashtag là de book. C'est quoi, c'est BookTok? Où en fait, non mais je te jure, t'as une tendance de fond sur les livres. En fait, avec des influenceurs qui recommandent des livres, et ils ont vu l'impact direct sur la vente de livres.
Ouais.
Donc tu peux trouver des contenus de merde, effectivement, mais t'as aussi, tu peux aussi trouver des contenus, en tout cas, qui sont pertinents ou qui correspondent à des centres d'intérêt qui sont pertinents. Tu
de la merde. Ouais, ok. Je comprends. Non, mais défends-les.
Je suis pas particulièrement une défenseuse, et je suis pas d'ailleurs une utilisatrice de TikTok en particulier.
Tu peux nous dire.
Mais non, je serais bien embêtée. On peut pas non plus rentrer que dans cette caricature-là de dire.
Oui, mais la réalité, c'est quand tu regardes quand même sur cette plateforme-là, autant Instagram, t'as des contenus esthétiques, YouTube, t'as des contenus intéressants, du doc, ce genre de contenu-là, de l'unscripté un peu intelligent. Là, c'est vraiment du gimmick, du jeu, de la vidéo. C'est ce que disait Alex, hyper courte. Et oui, BookTok peut-être, mais arrêtez, c'est que moi, je vois plutôt des jeunes filles en train de faire des danses sensuelles dans tous les sens, des jeunes hommes en train de faire des très très grosses bêtises parfois pour faire des vues, et je vois pas beaucoup de BookTok. Mais évidemment, dedans, t'as forcément du contenu.
Tu ne dois pas rentrer dans le bon algorithme.
Je suis peut-être plus dans le bon cible. Là. Je suis peut-être passé de l'autre côté.
Je sais pas, Alexandre, toi, est-ce que tu réfléchis, pour Nabla, se dire tiens, pourquoi pas TikTok pour essayer de promouvoir un peu.
Ouais, sur les contenus médecine, prévention.
Pourquoi tu fais pas ça?
Non, mais il y a des mécanismes. L'algo est dirigé avec effectivement une intention mauvaise.
Oui. Mais d'accord.
Mais par exemple, il y a une startup française qui s'appelle Revise. Qui fait un logiciel, une app de révision, donc d'éducation pour collège, lycée, collégien, lycéen, et qui s'est basé sur ce qui marche dans TikTok. Donc ça ressemble. Ils ont justement remarqué au début que parmi le flow de bêtises dans TikTok, il y avait quelques contenus intéressants et que ça marchait aussi. C'était plus facile à consommer.
Non, après, les mécaniques de TikTok, donc les mécaniques pour faire de l'audience, pour faire du reach, pour faire de l'engagement, elles sont hyper intéressantes. D'ailleurs, si on est honnête tous les deux, t'as beaucoup d'inspiration dans les reels sur Instagram chez Meta. On va dire inspiration pour rester poli. Donc, c'est sûr en termes de code. Et si tu utilises pour diffuser du contenu qui t'élève et qui t'apprend quelque chose, moi je suis pour. J'interdis les réseaux sociaux, jamais. Je dis plutôt l'inverse, moi, sur ce plateau, à chaque fois que je suis présent. Mais je trouve que celui-là, quand tu regardes le contenu, moi je l'ai ouvert 2-3 fois, c'est catastrophique. Il y a vraiment très peu de choses à en garder. Et c'est limite pornographique dans certains cas.
Et tu parlais du côté abrutissant, puis il y a le côté addictif. Hein.
Et en plus, c'est addictif à mort.
Je disais, je voyais un dessin humoristique l'autre jour. Non, une vidéo, pas sur TikTok, sur un autre réseau. La personne qui dit, je suis allé sur mon appli pour voir la météo. Ça fait 4 heures que j'y suis, je ne fais toujours pas la météo. Par contre, j'ai vu plein de petits chiens, des pandas et tout ce genre de choses. Tiens, juste un mot avant qu'on la pause. J'allais dire qu'on allait parler chacun de son actu. L'actu, Nabla, on en est où, Alexandre, là, en ce moment?
Nous, on a franchi donc, les 30 000 médecins qui utilisent notre assistant, l'IA. Donc pour
donc c'est le copilote, hein,
copilote pour donc c'est un assistant médical, ouais. IA qui travaille auprès des médecins, qui les remplace pas, qui documente les consultations et s'occupe de tout l'administratif, de tout la paperasse, de faire les contrôles.
Et eux-mêmes dans leur recherche documentaire, c'est-à-dire quand s'ils rendent les symptômes, ils peuvent avoir, ça vient confirmer un peu ce qu'ils ont.
Pas d'accord, parce que c'est pas une demande que la plupart des médecins ont, en fait. Ils sont à l'aise avec ça.
Ouais.
Par contre, ce qui les embête, c'est l'administratif.
Voilà, c'est envoyer un courrier à un confrère pour lui dire.
Voilà. Pendant une consultation, où, en général, votre médecin ne vous regarde pas, il ou elle.
Oui, oui, toujours, il est devant son écran.
Voilà. Et ça, personne n'a décidé de faire 10 ans d'études de médecine
pour être derrière.
Pour à la fin faire un travail de secrétariat. Donc en fait, on a fait une IA qui fait ce qu'ils n'aiment pas faire, c'est-à-dire ça, et qui leur fait gagner 3-4 minutes par consultation. En France, beaucoup plus aux États-Unis, où le devoir de documentation est bien, bien plus grand. Et les patients sont contents aussi parce qu'on les regarde, on les écoute et on s'occupe d'eux.
Et puis le travail est fait par derrière, en plus.
Et le travail mieux fait après.